Bonjour et bienvenue dans le podcast « À la découverte de soi » de l'évêque Michel Ambourouet. Chaque semaine, vous y trouverez toutes les ressources essentielles pour favoriser le développement de votre relation avec le divin, avec vous-même et aussi avec les autres. Prenez une bonne inspiration et laissez-vous guider sur le chemin de votre transformation vers le leadership. Bonne écoute.
Quelle heure est-il ? Quand nous posons cette question, nous la posons parce que nous nous attendons à quelque chose. En fait, lorsque tu demandes l'heure qu'il est, c'est parce que tu as certainement un rendez-vous avec quelqu'un ou tu es certainement dans l'attente de quelque chose de particulier. Par exemple, lorsque tu ne veux pas manquer une de tes séries préférées, tu demandes quelle heure est-il ? Lorsque tu as un rendez-vous prévu avec une personnalité importante ou simplement avec un ami, tu demandes quelle heure est-il ? Lorsque tu t'apprêtes à saisir une opportunité, pour être sûr que tu ne la manques pas, tu demandes quelle heure est-il ? Beaucoup de gens m'écrivent ces derniers temps face à tout ce qui se passe dans les nations et les gens me disent, pasteur, que dit Dieu ? Que signifie tout ce que nous vivons ? En d'autres termes, pasteur, à l'échelle des nations, à l'échelle du plan de Dieu, quelle heure est-il ? Et si, lorsque nous posons cette question à nos contemporains, à nos amis, à nos frères, ou parfois à nous-mêmes, nous la posons parce que nous voulons être sûrs de ne pas être en retard. Ouais. Parfois, lorsque tu as un rendez-vous avec quelqu'un et puis que l'heure s'approche, parfois, sans pour autant lui dire qu'il ou elle est en retard, tu lui demandes, attends, tu as quelle heure ? Comme pour dire, on avait rendez-vous à une heure précise, pourquoi est-ce que tu es en retard ? J'aimerais ce matin commencer mes propos avec vous en vous faisant remarquer que si nous devons souvent rappeler aux frères, aux sœurs, aux parents, aux amis, aux gens qui nous entourent l'heure du rendez-vous que nous nous sommes fixés avec eux, j'aimerais vous dire que Dieu n'est jamais en retard. Parfois, beaucoup d'entre nous, parce que nous avons le sentiment que Dieu tarde dans l'accomplissement de ses promesses, nous voulons rappeler à Dieu l'heure. Nous avons le sentiment que Dieu ne fait pas ce qu'il doit faire au temps où il doit le faire, parce que nous avons l'impression que nous sommes là et que Dieu n'est pas là. Et nous avons cette pensée humaine. Certainement, c'est parce que Dieu est en retard que je vis telle ou telle situation. C'est exactement ce que Marthe et Marie ont dit à Jésus. Si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. Maintenant tu viens, c'est vrai tu viens, mais il est déjà mort et ça fait 4 jours qu'il sent déjà. Je le redis donc ce matin à vous tous qui me suivez, à vous tous qui êtes connectés maintenant ou qui serez connectés plus tard, écrivez-le, tweetez-le, Dieu n'est jamais en retard. Regarde quelqu'un à côté de toi si tu suis ce culte en famille, encourage-le et dis-lui, Dieu n'est jamais en retard. En ce qui concerne ton mariage, Dieu n'est pas en retard. En ce qui concerne cet enfant, Dieu n'est pas en retard. En ce qui concerne ton travail, Dieu n'est pas en retard. En ce qui concerne les nations du monde, Dieu n'est pas en retard. Dieu n'est jamais en retard. Aucune situation ne le surprend. Aucun événement ne le prend de court. En fait, je vais le dire haut et fort, rien n'emmène Dieu à considérer un plan B. Même lorsque nous avons l'impression que Dieu a changé d'avis, en fait, il n'en est rien. Son plan final a toujours été son plan initial. Dieu n'a pas besoin de plan B parce que Dieu n'est jamais en retard. My God. Les Saintes Écritures le disent, je pense que c'est Nombre, le chapitre 23, le verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas ? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ? En fait, je veux dire à quelqu'un qui m'écoute ce matin, je veux te rappeler que Dieu n'est pas un homme. Ainsi, Dieu ne peut pas être contrôlé. Dieu ne peut pas être influencé. Ou Dieu ne peut pas être poussé à faire ce qu'il ne veut pas faire. J'attends que ça descende. Ça veut dire qu'en réalité, Dieu n'est pas manipulable. On ne peut pas emmener Dieu à faire quelque chose qu'il n'avait pas prévu faire. Et si donc Dieu a prévu faire quelque chose, my God, I heard you. Il n'y a rien que tu puisses faire qui va l'emmener à changer d'avis. En réalité, quand Dieu a décidé de faire quelque chose, il va le faire. My God. La deuxième vérité que j'aimerais vous donner, alors qu'on parle du temps, alors qu'on parle de l'heure qu'il est, c'est que Dieu est toujours en avance. Oui. Si Dieu n'est jamais en retard, Dieu est toujours en avance. Comment? Parce que, rappelez-vous que Dieu est omniscient. Ça veut dire que Dieu a tout savoir. Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît la fin d'une chose dès son commencement. Ça veut dire que Dieu a déjà accès à ce que nous appelons aujourd'hui le futur. Que nous allons appeler à l'instant T le présent. Et qu'un peu plus tard, nous allons appeler le passé. Ah, je vais redire ça. Ce que tu appelles le futur aujourd'hui, en réalité, et que tu vas appeler à l'instant T le présent et beaucoup plus tard le passé, Dieu le connaît déjà. Nous devons donc considérer assez régulièrement que c'est de notre futur que Dieu nous parle. Qu'est-ce que tu dis, révérend? Je suis en train de te dire que comme Dieu est hors du temps, Dieu ne te parle pas à partir de ton présent. Même quand tu entends la voix de Dieu aujourd'hui, Dieu ne te parle pas à partir d'aujourd'hui. Dieu te parle à partir de l'éternité. Ça veut dire que depuis l'éternité, Dieu te dit une chose et cette chose peut être pour toi le futur. Je crois donc que c'est de ce futur qu'il parle lorsqu'il fait cette déclaration par la bouche de son prophète. Ésaïe 9, versets 1 à 2. Permettez-moi de lire. Dans d'autres versions, c'est le verset 23 du chapitre 8. Dans ma version, c'est le chapitre 9, le verset 1er. Voici ce que la Bible déclare. « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer. Au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. » Le verset 1er. Le verset 2 dans ma Bible. « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. » Écoutez. Je sais que cette lecture peut vous fatiguer, mais écoutez bien. Ésaïe prophétise plusieurs siècles avant la venue de Jésus. Et il annonce que dans le pays de Nephtali et de Zabulon, une lumière va resplendir. C'est la même parole prophétique que Matthieu reprend en son temps. Lorsque dans Matthieu 4, le verset 12, il dit, « Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira de la Galilée ou dans la Galilée. » Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. » Écoutez-moi, s'il vous plaît. J'essaye de vous dire que lorsque Dieu nous parle, lorsque Dieu parle quasi régulièrement du futur. En fait, Dieu n'a pas d'intérêt à te parler du passé parce que ça, tu le connais. Dieu te parle du futur que tu ne connais pas pour te préparer à te positionner correctement pour vivre ce qu'il annonce. La venue de Jésus dans nos vies, tout comme c'était le cas pour les gens du territoire de Zabulon, nous introduit donc dans la lumière. L'apôtre Pierre explique ce voyage des ténèbres à la lumière dans une de ses épîtres. Il dit que nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à la lumière. Je le redis ce matin pour être sûr que vous ne vous perdez pas. J'ai dit, Dieu est toujours en avance. Tu as le sentiment que tu es en avance, ce n'est pas vrai. Dieu est toujours en avance. La dernière chose que je veux dire et qui me ramène à l'instant présent. D'ailleurs, quand vous demandez à quelqu'un quelle heure est-il, vous lui demandez l'heure actuelle. Mais une autre façon de parler de ça, c'est de demander quel jour on est, quel mois on est, quelle année on est. On a besoin de se situer dans le temps présent. Et c'est ce que je veux dire à quelqu'un ce matin. J'ai dit, Dieu n'est jamais en retard, Dieu est toujours à l'heure. Dieu est toujours en avance. Et la dernière chose, c'est que Dieu est toujours à l'heure. Je reprends, Dieu n'est jamais en retard, Dieu est toujours en avance et Dieu est toujours à l'heure. Ça veut dire qu'en réalité, au moment où Dieu intervient, c'est le bon moment. Au moment où Dieu agit, c'est le bon moment. Même quand tu as le sentiment que Dieu prend du temps pour accomplir ce qu'il fait, au moment où Dieu intervient, c'est le bon moment. Écoutez, pour certaines personnes, se marier à 20 ans, c'était le bon temps. Pour d'autres, se marier à 40 ans, c'est le bon temps. Pour certaines personnes, avoir un enfant à 25 ans, c'est le bon temps. Pour Sarah, c'était l'avoir après 80 ans, c'était le bon temps. Pour Marie, avoir un enfant dans son adolescence, c'était le bon moment. Pour Elisabeth, sa parente, l'avoir dans sa vieillesse, c'était le bon moment. Regarde quelqu'un, tweet-le, parle à quelqu'un, écris-le, dis Dieu est toujours à l'heure. Dis-le pour ta propre vie, parle à ton corps. Parle à ta famille, parle à tes finances, parle à ton foyer, parle à ta santé. Dieu est toujours à l'heure. Et je veux le dire ce matin, alors que nous célébrons Pâques. Quelle heure est-il ? Je veux répondre, c'est l'heure de Pâques. Ce dimanche, c'est l'heure de Pâques. Ce dimanche 12 avril 2020, c'est l'heure de Pâques. Ce qui est célébré partout dans le monde en ce dimanche de Pâques, et laissez-moi faire rapidement un cours. Pâques, P-A, accent circonflexe, Q-U-E-S, c'est la fête chrétienne que nous célébrons aujourd'hui. Elle est différente de la Pâques sans S, qui est la fête juive qui commémore le sacrifice de l'agneau pascal en Égypte. Pâques avec S, c'est la fête chrétienne. Pâques sans S, ou la Pâques sans S, c'est la fête juive. La Pâques avec S, ou Pâques avec S, c'est la résurrection. Nous célébrons la résurrection de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, après le vendredi noir. Un article à ce sujet faisait remarquer ce qui suit, et je cite, « Dans la mesure où l'on ne peut dissocier la résurrection de la crucifixion, on comprend le lien entre Pâques avec S et la Pâque. Alors que Pâques évoque la mort sacrificielle, alors que la Pâque évoque la mort sacrificielle de Jésus, Pâques signale la victoire du Sauveur sur la mort. Aujourd'hui, ce que nous célébrons, c'est la victoire de Jésus sur la mort. Par sa mort, donc vendredi dernier, et sa résurrection ce dimanche, nous avons la vie et nous sommes bénéficiaires de sa vie. Je veux que vous compreniez, et que Dieu m'aide, je veux que vous compreniez que si Christ n'est pas ressuscité, pourquoi je parle de la résurrection aujourd'hui? Parce que c'est la Pâque. Pourquoi est-ce qu'on célèbre Pâques? Parce que si Christ n'est pas ressuscité, de tous les hommes, nous sommes les plus malheureux. Parce que ça veut dire que nous ne croyons qu'en la résurrection ici et qu'il n'y a pas de résurrection des morts. En réalité, si Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. En d'autres termes, Christ ressuscité garantit que nous allons ressusciter aussi. Christ ressuscité garantit que la mort n'est pas la finalité. Christ ressuscité garantit qu'après la mort, il y a la vie. Christ ressuscité garantit que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu, pas même la mort. Je comprends pourquoi l'apôtre Paul peut faire cette déclaration. Il dit, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance. Philippiens 1, je suis au verset 21. Soit par ma vie, soit par ma mort. Il dit, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. C'est cette assurance que nous pouvons avoir face à la maladie, face au Covid-19, face aux difficultés de la vie, face aux parents que nous perdons, face aux amis qui meurent, face aux gens qui décèdent durant cette période de crise. Nous devons comprendre et nous devons croire que la mort n'est pas la fatalité. La mort n'est pas une fatalité. La mort n'est pas la finalité. Après la mort, il y a la vie. Si aujourd'hui, nous sommes rassemblés ce dimanche 12 pour célébrer la résurrection de Christ, je veux dire à quelqu'un sous le son de ma voix, que nous vivrons au-delà de cette vie. Nous vivrons dans cette vie et au-delà. Écoute, à toi qui m'écoutes ce matin, toi qui m'entends ce matin, ta foi, ton assurance, ta paix ne doivent pas être basées seulement sur cette vie-ci. Tu dois croire en Christ de telle sorte que même après la vie, tu crois en la vie. Bref, c'était mon introduction. Si aujourd'hui nous utilisons des montres pour déterminer l'heure, je voudrais vous rappeler que c'est une méthode évoluée. En fait, je voudrais vous rappeler qu'avant les montres, on pouvait déjà savoir quelle heure il était. J'ai fait quelques recherches et si vous êtes dans un endroit isolé, comme dans une forêt par exemple, sans montre, et que vous n'avez personne autour de vous, aucun être humain qui soit capable de vous aider à savoir quelle heure il est, vous pouvez alors vous référer aux éléments créés par Dieu pour vous permettre de reconnaître les temps et les saisons. Si vous êtes dans une forêt, un endroit isolé, en plein jour, vous pouvez, en regardant au soleil, à son positionnement, déterminer quelle heure il est. Et si vous êtes en pleine nuit, la lune aussi peut vous servir pour déterminer quelle heure il est. C'est cette réalité qui m'a emmené, écoutez-moi, à me demander quelle heure il était, et je reviens sur mon texte de base, quand Jésus était crucifié. Laissez-moi vous rappeler ce que j'ai lu. My God. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui, ça va être bien. La Bible dit, il était déjà environ la sixième heure, ce n'est pas de cette heure dont il s'agit. La Bible dit, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Le soleil s'obscurcit. Écoutez, la question que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce que le soleil va s'obscurcir, sachant qu'il n'était pas l'heure de la nuit. Et vous savez que le soleil a été créé par Dieu pour indiquer les temps et les saisons. Ça veut dire que normalement le soleil donne l'heure. Mais pourquoi est-ce que le soleil va s'obscurcir? Ça veut dire que quoique étant la neuvième heure, ou de la sixième à la neuvième heure, le soleil indique qu'il y a une autre heure, il y a une autre saison dans laquelle nous sommes entrés. Quelle heure est-il lorsqu'il fait nuit? Et pour ça, my God, que Dieu m'aide ce matin. Je veux attirer votre attention sur un élément particulier de ce texte. Je veux attirer votre attention sur les ténèbres. Que quelqu'un écrive les ténèbres. Hein? Les ténèbres. Les ténèbres. My God, que Dieu m'aide à prêcher ce message. Les ténèbres. Pourquoi les ténèbres sont apparues au moment où Jésus était sur le point de rendre l'esprit? Certaines personnes peuvent considérer, et sûrement à raison, que le ciel n'a pas supporté la vue de ce spectacle où le Créateur était mis à mort par sa créature. Peut-être la création, à l'image du soleil qui s'obscurcit, a fait le choix de cacher sa face pour ne pas avoir à contempler cette scène horrible, cette cruauté indéniable, cette très grande atrocité. Mais pour répondre à cette question, il est important que nous repartions au commencement. Écoutez, lorsque Jésus veut emmener les pharisiens à comprendre que le divorce ou le mariage ne dépend pas de Moïse mais de Dieu, il leur dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Ça veut dire que lorsque vous voulez vraiment savoir pourquoi Dieu a fait quelque chose, vous devez repartir au commencement.
C'était À la découverte de soi, le podcast de l'évêque Michel Ambourouet. N'hésitez pas à utiliser chacune des ressources qui vous a été utile dans l'épisode que vous venez d'écouter. Et surtout, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le et rendez-vous sur michelambourouet.com pour encore plus de prédications et d'enseignements pleins de sagesse. À la découverte de soi vous est proposé par MA Organisation.